RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Toute l'actualité africaine avec Nemo en piste.
Et à la une, des habitants obligés d'utiliser l'eau des puits ou des cours d'eau s'exposant aux maladies, parfois contraints de marcher des kilomètres à la recherche de la moindre goutte d'eau. À Bangui, la situation s'empire, des pénuries d'eau consécutives au délestage que connaît la capitale centrafricaine. Nous y sommes dans un instant. Marine Le Pen est au Tchad ce week-end. La chef de file du parti français d'extrême droite, Rassemblement National, entend retisser des relations sur la base d'un respect mutuel avec N'Djamena. Le Tchad est l'inquiétude du patronat de la presse qui demande de la transparence aux autorités quant à la détention du journaliste Olivier Monodji et de deux de ses confrères. Sur place, on craint un recul de la liberté d'expression. Et puis, l'ambassadeur n'est plus le bienvenu dans le pays. Les mots de Marco Rubio sur X. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré persona non grata le représentant sud-africain à Washington, Ebrahim Rasoul, accusé de nourrir les tensions raciales et de détester les États-Unis, mais aussi leur président, Donald Trump. C'est l'une des conséquences des délestages que connaît Bangui depuis quelques jours. Plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine sont désormais privés d'eau potable. Des jours entiers passent sans que la moindre goutte d'eau ne coule de certains robinets, ce qui pousse les habitants de Bangui à se tourner vers des eaux de mauvaise qualité, parfois exposées à des maladies. Reportage auprès des Banguissois, signé Rolf-Steve Domialeu.
Devant une fontaine du quartier de Transivilla, une longue chaîne de personnes. Depuis 5 jours, aucune goutte d'eau n'est tombée du robinet. Debout à côté de son pousse-pousse, Jacques patiente sous le soleil.
Nous avons un sérieux problème d'eau. On veut avoir accès à l'eau potable. Vous voyez la situation de nos enfants, de toutes ces femmes qui n'ont rien à boire. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Mais si la population n'a pas d'eau, comment faire?
La situation est pire dans le nord de la capitale. Armés de bidons, des jerricanes et de seaux multicolores, hommes, femmes et enfants parcourent des kilomètres pour chercher de l'eau. L'air fatigué, abîmé et désespéré.
Nous consommons de l'eau souillée. Nous sommes obligés d'utiliser l'eau des puits et des cours d'eau pour nos travaux ménagers. À force d'utiliser de l'eau contaminée, nous sommes exposés aux maladies d'origine hydrique.
Au centre-ville, le précieux liquide coule depuis 20 minutes. Mais pour combien de temps, Sonia n'en sait rien. Ça fait 8 heures qu'elle patiente dans la queue.
Imaginez une famille de 8 personnes qui ne possèdent pas l'eau courante. Comment faire la cuisine, la lessive, aller aux toilettes, se laver? Je marche dans le quartier depuis 3 heures du matin pour trouver de l'eau. C'est vraiment triste.
Selon une source à la Sodeca, la société de distribution d'eau en Centrafrique, les problèmes d'électricité enregistrés ces derniers jours dans la capitale empêchent la société de bien fonctionner. Rolf-Steve Domialeu, Bangui, RFI.
C'est un rendez-vous important de la presse française chaque année. Les Assises de journalisme à Tours, et parmi les prix décernés à cette occasion, le prix Enquête et Reportage a été décerné à notre consoeur Léa Perruchon du consortium d'investigation Forbidden Stories pour son travail sur la machine de désinformation russe en Centrafrique, basée sur les confessions et les documents produits par le lanceur d'alerte Efrem Yalike, ancien relais de la propagande du groupe Wagner à Bangui. Une enquête à laquelle RFI a été associée et que vous pouvez retrouver en ligne dans le dossier plongé dans la machine de désinformation russe en Centrafrique sur notre site et sur nos environnements numériques. Le Tchad dans ce journal, c'est là-bas que Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement National en France, passera le week-end. La leader du parti d'extrême droite qui entend défendre un partenariat franco-africain renouvelé à l'heure notamment où l'armée française par exemple est de moins en moins convoitée sur le continent africain. Raphaël Delvolvé.
Fidèle à sa ligne souverainiste, Marine Le Pen assure vouloir retisser des relations sur la base d'un respect mutuel. Si l'armée française est récemment partie du Tchad et d'autres pays du continent, le parti d'extrême droite pointe la responsabilité du pouvoir français et les changements de pied, dit-on, incessants du président Macron. On s'est fâché avec le monde entier à cause de lui, répète-t-on dans l'entourage de la finaliste de la dernière présidentielle française. Cette posture trouve évidemment un écho à N'Djamena et donne aussi à Marine Le Pen une occasion de se tailler une stature de femme d'État à l'international. Elle a d'ailleurs prévu d'évoquer les crises africaines au Soudan voisin, mais aussi en République démocratique du Congo. Les élus RN demandent depuis de nombreuses semaines maintenant des sanctions contre le Rwanda. C'est le second voyage de Marine Le Pen au Tchad. Le premier remonte à 2017, alors en pleine campagne présidentielle. Idriss Déby était alors le premier chef d'État africain à la recevoir sur le continent.
Le Tchad où Olivier Monodji et deux de ses confrères sont toujours dans l'attente de leur audience par un juge d'instruction. Elle était pourtant prévue jeudi avant d'être reportée à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée. Voilà près d'une semaine que les trois journalistes ont été arrêtés. Ils sont accusés d'intelligence avec l'ennemi, d'attentat contre les institutions, de complot, d'atteinte à l'ordre constitutionnel ou encore d'atteinte à l'intégrité et à la sécurité du territoire national. Le directeur de publication du journal Le Pays, Olivier Monodji, également collaborateur de RFI, tout comme ses deux confrères, risque de 20 à 30 ans de prison selon leurs avocats. Je vous propose d'écouter ce matin Djouda Alaoundoum du patronat de la presse tchadienne. Selon lui, ce sont des accusations graves qui sont portées. Il s'inquiète de l'avenir de la liberté d'expression dans le pays.
Nous ne savons pas véritablement ce qu'on leur reproche. Nous ne sommes pas en possession des documents qu'on leur reproche. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que le confrère, il a publié un article qui est d'ailleurs sur la toile. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui se trame derrière. C'est pourquoi on est inquiet. Nous demandons qu'il y ait une transparence totale dans cette affaire, qu'on présente des preuves concrètes et qu'on respecte le droit fondamental de notre confrère inculpé, conformément au principe de l'état de droit. Cette situation représente une épée de Damoclès sur la tête de tout un chacun. Il y a eu une inquiétude généralisée. Quand les journalistes sont interpellés de cette manière, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Le procureur, il a dit que d'autres personnes seront interpellées. On ne sait pas. Est-ce que ces personnes sont dans le milieu de la presse? Est-ce que ces personnes sont dans le milieu des affaires? Est-ce que ces personnes sont dans le milieu de la politique? On ne sait pas. Donc l'inconnu nous fait peur. Et on risquerait d'assister peut-être dans les jours qui suivent à un recul de la liberté d'expression dans notre pays.
Djouda Alaoundoum, joint par Paul Lorgerie. Dans l'est de la RDC, les activités de la mine de Bissié, une mine d'étain considérée comme la troisième la plus importante au monde, ont été mises à l'arrêt pour raison de sécurité, explique la société américaine Alpha Mine qui exploite ces gisements. L'entreprise évoque des groupes qui se dirigent vers cette mine située dans le district de Walikale dans la province du Nord Kivu. Progressent encore les hommes du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. 17 000 tonnes d'étain ont été extraites l'année dernière du site de Bissié, soit 6% de la production mondiale. Pendant ce temps, on ne sait pas encore si des discussions directes auront lieu entre M23 et autorités congolaises. Les deux camps ont en tout cas été invités à participer à un dialogue par l'Angola qui prévoit un début des négociations à partir de mardi à Luanda. Nouvel épisode de la série de tensions entre l'Afrique du Sud et les États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Hier soir, par la voix de leur chef de la diplomatie, les États-Unis ont déclaré l'ambassadeur sud-africain à Washington persona non grata. RFI New York, Lubna Anaki.
Comme désormais une grande partie de l'administration Trump, c'est sur le réseau social X que Marco Rubio a annoncé la nouvelle. L'ambassadeur d'Afrique du Sud n'est plus le bienvenu dans notre grand pays, a écrit le secrétaire d'État. Il accuse Ebrahim Rasoul d'être, je cite, un politicien qui nourrit les tensions raciales, qui est les États-Unis et qui est le président. Des déclarations qui font suite à un discours donné par le diplomate sud-africain lors d'une conférence organisée par un institut basé à Johannesburg. Discours dans lequel Ebrahim Rasoul expliquait que Donald Trump menait, je cite, une politique de suprématie blanche. Déclaré l'ambassadeur persona non grata n'est que la dernière illustration des tensions entre Washington et l'Afrique du Sud. Peu de temps après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait accusé Pretoria de traiter les descendants de colons européens de façon injuste. Il avait même créé une procédure d'asile pour accueillir ceux qui fuirait selon lui la discrimination raciale du gouvernement sud-africain. Des critiques répétées également par l'allié de Donald Trump, Elon Musk, lui-même sud-africain. Il a à plusieurs reprises accusé le gouvernement de son pays natal de discrimination envers les populations blanches. Le mois dernier, le président Ramaphosa avait lui dit vouloir se rendre aux États-Unis pour tenter de désamorcer la situation entre les deux pays. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et ce matin, dans un communiqué, la présidence sud-africaine juge regrettable l'expulsion de son ambassadeur. Pretoria dit prendre acte et se dit également déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec Washington. Les États-Unis et Israël, qui selon l'agence de presse américaine Associated Press, auraient demandé à plusieurs pays du continent d'accueillir des Palestiniens de Gaza dans le cadre de la volonté affichée par Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Parmi les pays cités par AP, le Soudan et la Somalie, mais aussi la région sécessionniste du Somaliland. Le ministère soudanais des Affaires étrangères dit ne pas avoir été saisi d'une telle demande et qu'il la jugeait inacceptable. La Somalie, elle, rejette, je cite, toute proposition ou initiative de quelque parti que ce soit qui irait à l'encontre du droit du peuple palestinien à vivre en paix sur leur terre, selon le chef de la diplomatie. Et puis, le Togo, à l'affût d'une ouverture au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'OMENA n'a jamais caché sa proximité avec les trois qui la composent, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Après des déclarations récentes, notamment du chef de la diplomatie, le Togo fait-il un pas de plus vers l'AES et envisage-t-il d'intégrer la Confédération ? Élément de réponse dans la correspondance régionale de Serge Daniel.
Le ministre togolais des Affaires étrangères revient à la charge, Robert Duché. Cette fois-ci affirme que le Togo envisage d'adhérer à l'organisation des trois putschistes gallonais, le malien Assimi Goïta, le burkinabé Ibrahim Traoré et le nigérien Abdourahman Tiani. À Lomé, pour le moment, on se veut très peu bavard après la déclaration du ministre togolais des Affaires étrangères, injoignable pour le moment. Sur les réseaux sociaux, il justifie sa sortie. Le Togo, membre de l'AES, pourrait devenir le port préféré pour l'économie des trois pays qui n'ont pas accès à la mer. Donc, avantage économique pour le Togo. L'acte d'intégration du Togo à l'AES, si elle devient effective, peut se révéler être un joli coup politique au moment où la posture connue en vogue dans la sous-région est de défier l'ancienne puissance coloniale. Le Togo, face à l'offensive de charme du Ghana, prend de nouvelles initiatives, analyse de son côté un diplomate de la région qui ajoute « Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Duché, n'a pas pu parler de possible intégration de son pays à l'Alliance des États du Sahel sans le feu vert du président du Togo. » Serge Daniel, Dakar. RFI.
C'est ainsi que se referme cette édition. Vous pouvez la retrouver sur RFI.fr et sur l'ensemble de nos environnements numériques. Tout de suite, vous retrouvez Marion Kazanov pour la fin d'RFI Matin.